Vivre FM, l'invité de la rédaction, podcast.
Que se passe-t-il dans l'Isère? Des associations et leurs avocats et des parents dénoncent des cas de pédophilie dans un établissement qui accueille des enfants autistes. Pour en parler, Omera Cellier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association Innocence en danger. 9 cas repérés, dénoncés par des parents.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en sait? Et que disent ses parents?
Écoutez, il s'agit d'une institution qui est spécialisée dans les enfants qui sont autistes ou qui ont un handicap intellectuel. Des enfants ont dénoncé pendant la même période les mêmes faits sans se connaître avant. Les parents ne s'étaient absolument pas concertés. Et dans le communiqué de presse, on parle d'attouchement, mais en fait, d'après les témoignages que j'ai reçus, on est sur du viol. Et cela concerne 3 éducateurs.
Du même établissement?
Oui.
Alors, on va essayer d'y voir plus clair et de comprendre un petit peu ce qui se passe. D'abord, la question qu'on se pose, c'est est-ce que, parce que ce sont des accusations graves, est-ce que des enfants autistes sont en mesure de décrire, est-ce que leur parole, vous savez, on a beaucoup mis en doute la parole des enfants, est-ce qu'on peut se fier à la parole des enfants autistes?
Merci pour cette question qui est effectivement très importante. D'abord, les enfants ne mentent pas, même si on croit ça en France, mais ça c'est un autre sujet. Les enfants autistes ne peuvent pas, sont incapables d'inventer ce qu'ils n'ont pas vécu. Ce sont des enfants qui ne peuvent que relater des faits qui leur sont arrivés. Et ces enfants ont mis du temps à se faire comprendre, d'après les témoignages. Je veux bien vous en lire quelques lignes. Donc, il est absolument impossible qu'ils n'aient pas vécu ce qu'ils ont raconté. C'est impossible. Et si on avait pris la peine d'entendre les spécialistes dans le domaine, on aurait dû regarder cette affaire avec un autre
d'une autre spécialistes manière. De l'autisme ou...
De l'autisme, oui, parce que ils peuvent de l'autisme ou de l'ant de des enfants qui sont handicapés intellectuellement, on aurait pu se rendre compte que c'est impossible que ces enfants aient inventé ce qu'ils racontent. Impossible. C'est reconnu sur le plan international. Hein.
Mais ça commence, les manifestations des enfants autistes, ça commence par exemple, s'automutiler ou bien se taper la tête contre les murs. C'est-à-dire des comportements qui sont pas forcément lisibles au premier degré.
Absolument, absolument. C'est pour ça que les parents déplorent beaucoup, parce que certains m'ont écrit, par exemple, lorsque l'enfant se mordait, se cognait la tête contre le mur, etc., etc., et ne voulait pas aller à l'école, les parents n'ont absolument pas, dans un premier temps, pensé à quoi que ce soit de cette nature. Je peux les comprendre. Ils ont dit, mais non, chérie, va à l'école, t'as tes copains, etc., etc. C'est quand il y a eu d'autres mimes. Où, par exemple, un enfant commence à montrer l'arrêt de ses fesses et commence à dire bobo, mal, etc., méchant, que petit à petit, ils sont inquiets, ils vont voir un pédiatre, ils vont voir un psy, etc. Donc, ça n'a pas été simple pour ses parents qui ont été extrêmement courageux, pour les enfants aussi,
je dois dire. On pense d'abord que c'est l'enfant qui a un problème.
C'est-à-dire qu'on pense qu'il a eu un problème avec un copain, on pense pas à ça tout de suite. Pourquoi est-ce qu'il veut pas aller à l'école? Pourquoi est-ce qu'il se fait mal? Pourquoi est-ce qu'il se fait mal? Il y a le sang qui coule du nez, etc., etc. Et des crises de nerfs, alors que certains de ces enfants sont des enfants qui sont très calmes.
Ce sont des enfants qui sont encore dans l'établissement aujourd'hui. Combien de temps est-ce qu'il s'est passé entre le moment des faits et le moment où les parents en ont eu connaissance?
D'après ce que je comprends, les premières déclarations remontent à 2014. Il y a 2 ou 3 enfants qui ne sont plus dans l'établissement. Les autres sont toujours dans l'établissement. Il s'agit absolument pas de faire le procès de l'établissement lui-même. Hein, soyons clairs, l'établissement, j'ai parlé avec eux il y a quelques jours. Ils m'ont déclaré qu'il voulait également la vérité, mais tant mieux si tout le monde veut la vérité, que la vérité sorte. Et que j'aimerais pouvoir dire une chose, protéger les personnes qui ont des pulsions trop fortes envers les enfants, c'est de la prévention, et pour ces personnes, et pour les enfants. Donc il faut surtout arrêter cette culture de l'étouffement qui existe en France depuis les années 70 sur ces sujets. Ça fait mal à tout le monde, ça coûte très cher et ça fait beaucoup de mal.
Omeyra Sellier, présidente de l'association Innocence en danger et notre invitée ce matin. On parle de soupçons de pédophilie, de plaintes qui vont être déposées par des parents dans un établissement médico-éducatif dans le département de l'Isère. Vous êtes notre invitée ce matin.
Jusqu'à 8h30, l'invitée de la rédaction sur Vivre FM.
On parle de soupçons de pédophilie dans un établissement de l'Isère avec vous, Omeyra Sellier, vous êtes la présidente de l'association Innocence en danger. Alors, soupçon, il y a quand même un éducateur qui est déjà en prison aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il est mis en examen, il a été mis à pied.
Les faits que vous dénoncez.
C'est-à-dire qu'il a été, on a trouvé sur son ordinateur des fichiers d'images pédopornographiques. Il fait partie des personnes, des éducateurs qui sont mises en cause par les enfants. Il se trouve que, vous voyez ce que je veux dire?
C'est ça, vous ne faites pas le lien encore aujourd'hui, on est encore dans la présomption d'innocence.
J'aimerais que l'enquête fasse le lien, bien sûr, absolument.
Où est-ce qu'on en est dans le processus judiciaire? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui, plaintes ont été déposées et est-ce que les tribunaux s'en sont saisis ou est-ce qu'on en est?
Alors, il y a 5 plaintes qui ont été déposées sur les 9 parents dont les enfants ont parlé. Il y a eu 5 plaintes à l'heure où je vous parle. Il pourrait y en avoir d'autres. Il y a une enquête qui est en cours. Il n'y a pas encore de juge d'instruction qui a été saisi. Je peux pas vous dire pourquoi, parce que normalement, vu les faits, parce que là, on parle d'attouchement, mais c'est des viols. Il aurait fallu qu'il y ait un juge d'instruction, mais bon, je croise les doigts pour tout le monde.
Alors, est-ce qu'on peut essayer de refaire un peu la chronologie? Parce que on imagine à la fois que, d'abord, ces enfants devraient être davantage protégés que les autres parce qu'ils sont vulnérables, et qu'en même temps, on se dit, mais la parole des enfants, on sait ce qu'il en est, quelquefois elle est mise en cause, et en plus, s'ils ont une déficience intellectuelle, on va se dire, ben, ils regardent trop la télé, quoi. Enfin,
voilà, exactement.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis les premiers signaux?
Alors, écoutez, je peux vous lire déjà un témoignage. Vous voulez que je vous lise un témoignage?
Dites-nous un petit peu ce que vous avez reçu, parce que vous êtes présidente d'une association Innocence en danger.
Moi, j'accompagne
et les familles
les parents.
Sont venues vers vous d'abord.
Voilà, exactement. Donc, il y a des parents qui m'écrivent. Pour nous, à partir de 2012, notre enfant a eu un comportement différent. Nos nombreuses demandes sont restées sans explication, ni sur les circonstances précises de ce qu'est l'enfant, de l'alerte de l'enfant, ni sur les causes possibles. En particulier, une rencontre avec le médecin psychiatre, la psychologue et les chefs de service en juin 2013 ne nous avait apporté aucun éclairage supplémentaire et le refus de chercher nous avait laissé très dubitatifs. Les départs du matin sont devenus de plus en plus difficiles. Le soir, notre enfant revenait avec des vêtements souillés, déchirés dans son sac. Il pleurait, criait, se mordait le bras et se tapait la tête. Il s'arrachait les cheveux. Il parlait souvent seul le soir dans sa chambre en répétant « Non, non, arrête !» Même pas peur. Il cassait ses objets préférés, des crises quasi quotidiennes dès début 2014 et dont nous avons eu connaissance seulement lors du retour du synthèse de 7 juillet 2014. Parce que tous les jours, à la fin du repas, votre enfant cassait son verre, se jetait par terre pour se blesser. Ces incidents n'ont pas été retranscrits dans le cahier de liaison à chaque fois, faute de temps. Ça, c'est une correspondance entre le centre et les parents.
Oui.
Ils ont déscolarisé leurs enfants jusqu'aux vacances. Ils ont adressé un courrier à la direction de l'établissement, à la section locale qui est restée sans explication. Ils ont également dénoncé la maltraitance à l'ARS, qui est l'entité qui chapeaute tout ça. Toujours pas de réponse. En mai 2015, il a quitté l'IME pour une autre structure et les symptômes ont disparu.
Alors, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Manifestement, vous avez été alerté par plusieurs parents, donc ces parents ont sans doute eux aussi alerté la direction de l'établissement, les professionnels de l'établissement, et c'est quoi? Il y a une omerta? Il y a une volonté de dissimuler quelque chose dans cet établissement?
Écoutez, je dirais pas que c'est propre à cet établissement. Je ne peux pas, je ne vais pas faire leur procès parce qu'au téléphone, ils m'ont assuré qu'ils cherchaient la vérité et je voudrais les croire. Mais comme je vous le disais, il y a une sorte de mentalité dans toutes les institutions, en tout cas en France, d'étouffer les affaires, espérer qu'elles ne sortent pas, circuler, il n'y a rien à voir, ça fait des ordres. Et donc,
mais
voilà.
On n'est pas dans le cas d'une petite structure isolée qui serait dans une dérive comme ça de, comme on a pu voir quelquefois des associations un peu très seules, très en difficulté par rapport à des difficultés de gestion. C'est une structure qui appartient à une grande association qui gère des dizaines d'établissements. Donc, a priori, il n'y a pas de raison que dans cette structure-là, il y a un directeur local, mais il y a également un directeur au niveau
Absolument.
De l'association. Alors, comment vous expliquez que, même au niveau supérieur, on ne se soit pas approprié cette question ?
Écoutez, d'abord, vous avez tout à fait raison. Il y a quand même 2300 salariés en tout. Hein. Je parle de l'établissement.
C'est ça, c'est une grande maison.
Et il s'agit d'une vingtaine d'établissements. Ils ont un budget de 110 millions d'euros par an. On parle de 2500 personnes handicapées, dont 800 enfants. Donc, je parle de l'établissement en grand.
Et il y a, dans l'ensemble de cette association, il y a une structure qui pose problème, et une seule.
Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on connaît des problèmes concernant un seul de ces établissements. J'espère que ça s'arrêtera là. On verra, le temps parlera. Mais je pense que l'établissement à lui-même était dépassé. Quand ils ont embauché cet homme qui est mis en examen aujourd'hui, son casier judiciaire était vierge. Après, il n'y a pas eu de contrôle. Vous savez, le problème est beaucoup plus profond que de regarder la surface de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut déjà, au départ, lorsqu'on embauche les gens, il faudrait qu'il y ait une recherche approfondie dans le casier judiciaire, je dirais, tous les ans.
C'est-à-dire que vous dites l'établissement est de bonne foi.
Moi, je dis que l'établissement a embauché avec des casiers judiciaires vierges. On peut pas dire le contraire.
L'invité de la rédaction de Vivre FM jusqu'à 8h30.
Omaïra Sellier, vous êtes notre invité ce matin. Vous êtes la présidente de l'association Innocence en danger. Vous avez des accusations graves en direction de quelques éducateurs d'un établissement, d'une association qui accueille des enfants en situation de handicap dans le département de l'Isère. Vous, avec l'association Envol Isère Autisme, association de parents d'enfants autistes, et vous dites il faut dénoncer, sortir de ce qui ressemble quand même à une sorte d'omerta, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, mais vous dites c'est la culture finalement, c'est voilà. Comme ça dans ce pays, et il n'y a pas que dans cet établissement qu'on
Absolument.
Se tait.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que dans ce type d'institution qu'il y a un culture, je dirais, d'étouffement, de pousser sous le tapis. Le problème existe dans toutes les institutions. C'est-à-dire que le corporatisme, la protection de ceux qui seraient mis en cause passe avant celle des enfants, ce qui est très grave. Et il faut savoir par A plus B que ceux qui ont des pulsions très fortes envers les enfants, ceux qui aiment un peu trop mal les enfants, les pédocriminels, je dirais plus que pédophiles, parce que le mot pédophile est un mot qui peut prêter à confusion, ils vont chercher à être à côté des enfants. C'est normal. Donc, à la rigueur, les empêcher et faire ce travail plus sérieusement prévient également ces personnes de commettre des actes multiples, et c'est la protection des enfants aussi.
Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'association au niveau régional et l'IME, l'établissement, joue le jeu de la transparence ? Est-ce qu'aujourd'hui, on vous ouvre les portes, on vous permet de savoir ce qui s'est passé ?
Écoutez, je leur ai parlé il y a quelques jours. Ils m'ont dit, ils étaient plusieurs, il y avait le président, il y avait le directeur. Ils ont dit tous, il y avait d'autres personnes, ils ont dit qu'ils voudraient la transparence, qu'éventuellement ils seraient partie civile, qu'ils voudraient que la vérité éclate. Je voudrais vraiment les croire. Je ne me permettrai pas de mettre en doute cette parole, parce que c'est dans l'intérêt de personne. Aujourd'hui, on a 9 enfants qui ont parlé. Je ne sais pas dans 6 mois, dans 7 mois, combien d'enfants auront parlé. J'ai aucune idée. Vous savez, dans d'autres dossiers, regardez Villefontaine, regardez Courbevoie, le nombre d'enfants qui parlent augmente, pas tous les jours, mais toutes les semaines. J'en sais rien.
Les familles n'osent pas le dire.
Les familles n'osent pas le dire parce qu'il faut arrêter aussi de penser que c'est une chose dont on voudrait se vanter. Personne n'a envie de dire j'ai été violée, ou aucun parent n'a envie de croire que son enfant a été
et qu'il ne l'a pas vu aussi.
Exactement.
Enfin, pour les parents, c'est extrêmement
difficile.
Donc,
c'est très dur de l'accepter déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose dont on se vante. Beaucoup de parents se doutent des choses, mais n'osent pas parler. Voilà. Donc, je ne sais pas combien on sera en nombre d'ici quelque temps. J'espère que 9, c'est déjà énorme. Et j'espère surtout qu'il y aura une enquête approfondie et j'espère qu'on protégera les enfants, mais on protégera aussi ceux qui ont des pulsions très fortes envers les enfants. Ça va ensemble, c'est ça la prévention.
Est-ce que la gendarmerie qui est saisie de l'enquête, aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'ils font leur travail correctement, qu'ils sont en capacité de comprendre ce que disent ces enfants et ces jeunes autistes, parce que ça peut être effectivement une vraie difficulté dans cette enquête?
Écoutez, je sais que les enfants ont été filmés comme il se doit.
C'est la procédure.
Ça,
hein,
c'est la procédure.
C'est-à-dire pour ne pas les réinterroger 50
voilà,
fois,
pour ne pas les...
on filme et chacun pourra regarder
exactement
le film.
Mais je, à ma connaissance, à l'heure où on se parle, ils n'ont pas interrogé les experts, donc le pédiatre, le psychologue qui avait reçu les enfants, et notamment les experts sur la question de l'autisme. Parce que comment voulez-vous que les gendarmes qui sont déjà pas, avec tout le respect que je leur dois, ils sont déjà pas formés pour ce sujet? Pour la plupart, comment voulez-vous qu'il le soit pour un sujet qui est, par exemple, de l'autisme? Donc oui, les films existent, mais non, on n'a pas consulté les experts sur le sujet pour essayer de décrypter et comprendre la parole des enfants. Donc ça, c'est aussi une erreur, ça, c'est une faille que je dénonce, parce que c'est très grave.
Oui, mais Rassellier, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette affaire?
Écoutez,
de soupçon de pédophilie
Aujourd'hui, nous avons une conférence de presse avec l'institution Envol Autisme de l'Isère.
Association de parents.
Voilà. Il y aura aussi Maître 5 qui représente l'intérêt de 5 des parents. Donc, on va parler de cette affaire tout à l'heure dans le cadre d'une conférence que nous avons organisée au Press Club de Paris. Et puis après...
Mais on a envie qu'il y ait des mesures urgentes qui soient prises pour protéger les enfants.
Voilà.
Maintenant, là,
on
tout
est
de
d'accord.
suite. Et est-ce que ça, c'est
Merci.
Envisageable?
Merci. Écoutez, c'est souhaitable, envisageable. Bien sûr que ça l'est. Mais
il n'y a pas de procédure d'urgence qui devrait être mise en œuvre?
Ça devrait... Écoutez, beaucoup de choses devraient. Et il y a beaucoup d'il faut. Mais sur le terrain...
Ça dépend de qui, cette décision-là?
Ça
dépend
de la justice. Il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui soit nommé. Il faut que l'affaire soit instruite.
Est-ce que ce que vous redoutez en particulier, c'est la lenteur de la justice qui pourrait mettre du temps avant de prendre une décision?
La lenteur, le fait de ne pas donner autant d'importance qu'il le faut à cette procédure, à cette affaire. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça protégerait d'autres enfants. C'est pas rien. Et puis, ça protégerait ces présumés coupables. Ils vont pas passer à l'acte une fois. Ça libérerait des tas de personnes. Il faut savoir que c'est la première fois. Cette affaire est une première. C'est la première fois qu'on parle de violences subies par des enfants autistes et handicapés intellectuellement. Donc, c'est la première fois. C'est très important. Il faut qu'on ait un regard réparateur. Il faut qu'on ouvre. Donc, il faut qu'il y ait instruction. Il faut qu'il y ait juste un... Et s'il n'y a pas... On va être tous partie civile.
Merci d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Vivre FM, Omeyra Sellier. Je rappelle vous êtes la présidente de l'association Innocence en Danger. L'association, vous allez vous porter partie civile, sans doute, dans un procès, une accusation d'actes de violence sexuelle sur des enfants, des adolescents qui présentent des troubles autistiques et un handicap intellectuel. Ça se passe dans un établissement du département de l'Isère. Merci d'être venu nous voir ce matin.
Merci à vous.
Sur l'antenne de Vivre FM.